Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à votre émission Parole au présent. C'est Claude Julien qui vous parle. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Alors, c'est la coutume que le dimanche qui suit la fête de Noël, on célèbre la Sainte Famille. Et nous allons ensemble regarder le texte de Jésus se rendant au temple avec ses parents. Francine, avant lecture, peut-être quelques clés de lecture ou si on fait ça après?
Peut-être j'inviterais les gens à être attentifs un peu plus que d'habitude au personnage des parents, ne pas seulement se concentrer sur l'intelligence précoce de Jésus.
Au chapitre 2 de l'Évangile de Luc. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de Pâques. Quand il eut 12 ans, ils firent le pèlerinage, suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient après les jours de la fête, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin. Puis, ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Ils les écoutaient et leur posaient des questions. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être aux choses de mon père? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Et Jésus progressait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Francine Robert, ce récit se prête à plusieurs types de lectures, hein, et on est très tenté d'en faire une lecture exclusivement psychologique.
Oui, mais ça, c'est très intéressant. Je l'ai travaillé, moi, avec des adolescents à l'époque où j'étais en pastoral scolaire. Et bien sûr, une lecture psychologique ne rejoint pas la visée normale du récit, mais ça aide à réfléchir. Hein. C'est sûr que les adolescents voient en Jésus un acte d'autonomie, face à des parents, à être fidèle à soi-même et non pas à ce que les parents s'attendent à ce qu'on devienne. J'ai évidemment travaillé ça aussi avec des parents et bien sûr, le point de vue est renversé, l'impression d'avoir perdu leur ado. Hein. Et le fait de le prendre un peu, de prendre l'autonomie de leurs enfants comme un acte porté contre eux personnellement. On voit ça un petit peu dans la question de Marie, qui ne demande pas à Jésus « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ou « Pourquoi es-tu resté ?» mais « Pourquoi nous as-tu fait cela ?» comme si ce que Jésus avait fait était dirigé contre eux, finalement. Donc, beaucoup de parents à qui ce récit suggère toutes sortes de réflexions et ça défait une certaine image de Jésus enfant idéal, parce qu'ici, il apparaît un petit peu dur, pourrait-on dire, avec ses parents. Sa réponse est un peu froide. Bon, mais on doit quand même se rappeler que les récits des évangiles n'ont pas une visée psychologique. Hein. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des lectures intéressantes ou stimulantes. Ça veut dire que Luc ne cherche pas ce type de réflexion. Bon, ça sert à rien non plus de se poser certaines questions du genre comment ça se fait que Marie et Joseph ne savaient pas, ne s'y attendaient pas, Après tout, il y a eu les annonces des anges. Vous voyez, quand on se pose des questions comme ça, qui sont d'ordre de l'invraisemblance historique, ça veut dire qu'on a des attentes d'informations historiques face au récit. Or, ce genre de récit-là ne cherche pas du tout l'historicité. C'est toujours préférable, d'ailleurs, pour tous les récits des évangiles, c'est toujours préférable de se demander pourquoi c'est écrit de cette manière-là, plutôt que pourquoi est-ce que ça se passe de cette manière-là.
C'est ça. Quelle était finalement la visée du récit? De quoi veut-il parler?
Oui,
qu'est-ce
que l'auteur est en train de faire? Et on se rend compte que ce genre de récit, donc des récits sur des jeunes, était assez fréquent.
C'est ça. Oui. On retrouve ça dans l'Antiquité. Alexandre le Grand, César Auguste.
Cyrus aussi, le Perse. Puis il y avait des légendes juives à l'époque aussi qui s'écrivaient sur Moïse pour souligner sa grande intelligence, ses connaissances extraordinaires. Alors, voyez, c'est un genre littéraire assez connu de l'Antiquité qui avait pour but, non pas de raconter la vie des gens, mais de montrer que le grand homme adulte avait déjà manifesté dans sa jeunesse des caractéristiques de ce qu'il est devenu comme grand homme. Donc, évidemment, ces récits-là sont écrits après coup, à partir de ce que fut le grand homme. Et ces récits-là mettent en valeur ce que l'auteur de ce genre de récit veut considérer comme important chez l'adulte qui est devenu ce grand homme. Donc, on va projeter sur le jeune des caractéristiques de l'adulte. Alors, peu importe que finalement ce récit soit historique ou non, dans notre réflexion, c'est davantage la manière de raconter qui va donner un point de vue. Quand je dis peu importe, je veux pas dire qu'en soi, ça importe peu, que ce soit produit ou pas. Ce que je veux dire, c'est que nous ne le savons pas, mais ce à quoi nous avons accès, c'est la manière dont Luc nous parle de cet événement. Et peut-être que pour se rendre compte des choix que Luc fait, on pourrait le comparer à une autre version de ce récit. Vous savez, Claude, vers les 2e, 3e siècles après Jésus, donc on est dans le développement du christianisme, beaucoup de gens trouvaient que ça aurait été intéressant d'avoir des vies de Jésus, trouvaient que les évangiles n'étaient pas très développés sur un certain nombre d'aspects, entre autres les récits de l'enfance. Et donc, il s'est écrit...
Des romans, d'une certaine façon.
Quasiment, aujourd'hui, on appellerait ça comme ça, romans.
On a romancé à partir de quelques éléments.
Oui, et en fait, pour être honnête, à partir de rien. Parce que si on n'avait rien au 1er siècle sur la vie de Jésus enfant, je ne vois pas d'où seraient venues les informations arrivées au 3e siècle, vous voyez. Donc, vers le 3e siècle, justement, donc dans les années 200-250, on a écrit des récits de l'enfance de Jésus. Et on voit que les choix dans ces récits sont très différents de ceux de Luc et des évangiles canoniques. Ça insiste beaucoup sur le merveilleux. On fait des démonstrations du pouvoir du jeune Jésus qui, par exemple, fabrique des oiseaux de glaise qui vont devenir vivants. Jésus, donc, comme Dieu créateur dans le livre de la Genèse. Alors, ça, c'est le choix de ces auteurs-là. Donc, ça nous aide à comprendre les choix de Luc. Et ces auteurs-là, donc, ce livre des récits de l'enfance de Jésus, inventé, reprend le récit de Luc. Mais on voit bien qu'ils trouvent qu'il y en a assez à leur goût, là. Et ils vont ajouter, je vous lis des petits bouts de ce qui a été ajouté. Tous s'étonnaient qu'un enfant puisse fermer la bouche au prêtre et qu'il leur explique, puisse les boucher, en bon québécois, et puisse leur expliquer les paraboles des prophètes et les points difficiles de la loi. Et il disait à Marie, nous n'avons jamais entendu une telle gloire et une telle sagesse. Bon, vous voyez, ils en ont ajouté, percevant bien que le récit de Luc est pas suffisamment élogieux, un peu trop sobre à leur goût. Alors, ça nous dit bien, nous, que si on lit le récit de Luc en accentuant l'aspect émerveillé, on n'est pas tout à fait dans le droit fil du récit de Luc. On se trouve à faire la même chose que les récits du 3e siècle qui en ont ajouté.
Et c'est là qu'on arrive à la question, finalement. Luc nous présente Jésus. Comment nous le présente-t-il et comment utilise-t-il le personnage des parents.
Oui, puisqu'il ne donne pas dans le merveilleux, qu'est-ce qu'il fait?
Et la première parole qu'il prononce, selon Luc, oui, c'est...
Ne saviez-vous pas que je dois être aux choses de mon père?
De mon père.
Ça, c'est assez remarquable. D'abord, dans un livre sur un personnage principal, la première parole de ce personnage principal est toujours importante. Alors ici, Luc choisit ce récit et cette parole qui positionne Jésus dans une relation particulière avec Dieu. Il l'appelle son père et il le désigne comme étant sa priorité sur tout le reste. Hein? Donc, le centre de gravité de sa vie. Ne saviez-vous pas que je devais être aux choses de mon père?
En tout cas, je reviens là-dessus parce que je trouve ça tellement important que c'est la première parole publique qui est prononcée selon
oui,
Luc.
Tout à fait.
Et la dernière parole publique.
Ben oui, hein, la dernière parole de Jésus, c'est sa parole en croix. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » On voit que ça forme comme une inclusion. Première et dernière parole, Jésus se positionne par rapport à Dieu et donc ça place cette relation particulière de Jésus avec Dieu comme étant vraiment le centre de sa vie, finalement.
Et sa façon de se situer par rapport à son père va susciter de l'incompréhension.
Oui.
D'abord chez les
dans
parents.
Dans toute sa vie
puis,
adulte
les
aussi.
Les disciples,
hein?
etc. Tout le monde,
oui,
quoi.
Mm-hmm. Et dans l'Évangile de Luc, personne n'appelle jamais Jésus fils de Dieu. Hein? On n'est pas dans Marc avec le centurion, vraiment cet homme était fils de Dieu. Hein? On n'est pas dans Matthieu avec la parole de Pierre, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Chez Luc, personne n'appelle Jésus fils de Dieu, sauf les anges dans les chapitres 1 et 2 finalement. Donc, vous voyez que cette intimité particulière entre Jésus et Dieu, elle ne sera pas comprise pendant sa vie adulte, alors elle n'est déjà pas comprise...
De ses très proches.
De ses parents.
Ça suscite de l'incompréhension.
Voilà. Mmh. Et
ça annonce l'incompréhension de tout le...
Oui, c'est ça.
C'est
pour ça que je disais que c'est comme ça qu'il utilise le personnage des parents, nonobstant le problème d'invraisemblance historique. Et vous voyez, ça ne nous donne rien de nous dire « Oui, mais eux, ils savaient. » Marie-Joseph le savait. Ce que Luc vient mettre en scène ici, c'est que savoir, c'est une chose, comprendre, faire entrer ça en soi, c'est autre chose. Et donc, il présente Joseph et Marie comme ne comprenant pas. Alors,
bon, okay.
Cet aspect-là de l'incompréhension, on va y revenir.
On va y revenir. Et ensuite, regardons maintenant la réaction des gens.
Oui.
Tous ceux qui l'entendaient... Bon, là, on va regarder le verbe qui a été traduit par « s'extasier » sur son intelligence et sur ses réponses.
Ouais,
ça, vraiment, on ne peut pas le laisser passer, là.
Dans le lectionnaire, en tout cas, on a
dans
mis «
s'extasier ». Dans le lectionnaire,
s'extasier.
C'est « s'extasier ».
Moi, quand j'entends « s'extasier », surtout un groupe d'adultes qui s'extasie devant un enfant, c'est trouver ça enthousiasmant, c'est admirer, c'est trouver ça fantastique, c'est, si vous me permettez, « wow ». Hein, quelque chose comme ça. Donc, s'extasier, ici, c'est une traduction qui va exactement dans le même sens que nos fameux récits du merveilleux là, dont je parlais tout à l'heure au 3e siècle. C'est génial. Hein, c'est-tu extraordinaire? C'est ça, s'extasier, ici. Mais cette traduction-là, à mon avis, ne rend pas compte du choix que Luc a fait d'un verbe qui est plus nuancé, hein, qui peut vouloir dire être extrêmement étonné. Et quand on cherche des synonymes, je l'ai fait, à étonner, ça peut être aussi stupéfait, estomaqué, rester bouche bée.
Interloqué.
Interloqué, ouais, ouais. Voilà. Donc, ça exprime une surprise profonde. Les gens, entendant Jésus, entendant son intelligence, entrent dans une grande stupéfaction. C'est sûr que ça peut aussi être admiratif, mais pas nécessairement. Alors, par exemple, quand Luc utilise...
En fait, c'est déconcertant, désarçonnant, c'est ce que vous venez
ouais,
de dire.
Oui, parfois, ça peut vouloir dire admiratif.
Déstabilisant.
Oui, mais par exemple, c'est le verbe que Luc va utiliser pour la résurrection de la fille de Jaïr. Mm-hmm. Alors, c'est sûr qu'on peut dire ici, ah, les parents sont admiratifs, enthousiasmés, c'est vrai. Ce même verbe peut être traduit comme ça. Mais c'est ce même verbe que Luc va utiliser, par exemple, dans le récit des disciples d'Emmaüs, qui raconte que des femmes les ont profondément surpris. Elles sont allées au tombeau, le tombeau est vide. On peut pas dire que les disciples d'Emmaüs ont été émerveillés. Là. Ils racontent qu'ils ont été étonnés, plongés dans une grande perplexité, bouleversés, troublés. Vous voyez, le verbe qui est là, au fond, textuellement, il c'est ex istemi, c'est être hors de soi. Hein? Les gens sont hors d'eux-mêmes. Alors, c'est vrai qu'on peut être transporté hors de soi-même par l'admiration, mais on peut aussi être, comme vous disiez, déboussolé, dérouté, désorienté.
Et ça conduit à l'incompréhension.
C'est ça.
Hein, cette stupéfaction, on ne reviendra pas sur tous les verbes qu'on a donnés, là, engendre de l'incompréhension.
Exprime aussi, oui. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Mm. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas « wow », c'est « mais c'est quoi? » Qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi je choisis plutôt cette traduction-là, « être stupéfait », ou qui est la traduction d'ailleurs de la plupart des Bibles là, en français? C'est parce que les parents de Jésus aussi sont présentés comme ne comprenant pas. Vous voyez, s'il n'y avait que l'auditoire, on pourrait se dire qu'ils sont admiratifs. Mais Luc revient sur l'incompréhension de deux personnages qui devraient comprendre. Donc, c'est clair que le récit est orienté par Luc du côté de la profonde surprise. Jésus est comme déconcertant. Vous voyez, dans ce récit, déconcertant pour les parents, déconcertant pour l'auditoire, et ça actualise d'une certaine manière ce qui a été annoncé dans le récit d'Évangile tout juste avant, chez Luc. Jésus bébé a été présenté au temple et le vieillard Siméon a annoncé à propos de lui que cet enfant amènera la chute et le relèvement d'un grand nombre et il sera un signe de contradiction. Vous voyez, donc, ça sera pas un ralliement d'enthousiasme, ça va être un signe en but à la contradiction. C'est ça qui se passe tout de suite après avec le récit de Jésus à 12 ans. Il fait des choses et les gens ne sont pas hostiles, remarquez. Hein? Il n'y a pas d'hostilité dans le récit.
Non, c'est de l'incompréhension.
Mais ils sont... stupéfait. Les scribes, les docteurs de la loi ne sont pas du tout présentés dans le récit comme des adversaires ou comme des gens de mauvaise foi. Simplement, ils sont dérangés. Et ils sont, pour reprendre le verbe qui est utilisé pour les parents, ils sont incapables de faire des liens. Les parents ici sont dit ne pas comprendre la parole que Jésus leur a dite. Et ne pas comprendre, c'est le verbe « suniemi » qui est là, c'est-à-dire ne pas faire des liens.
En fait, ils ne voient pas le lien entre ce que Jésus fait au temple et ce qu'il leur dit,
oui,
la parole qu'il prononce.
Aux choses de son père. Ça. Ils ne font pas de lien avec tout ce qu'ils ont vécu avant. C'est comme si les choses se produisent, ça les laisse bouche bée.
Alors, rapidement, maintenant, Francine Robert, la trajectoire des parents. C'est quand même éclairant, hein?
Oui, je pense.
Plusieurs verbes de déplacement, ils cherchent. Est-ce que le verbe chercher répété 4 fois, enfin, ça bouge, quoi.
Et ils sont là pour éclairer, finalement, la position du lecteur face à Jésus, hein? Ils sont présentés comme de bons croyants et de bons pratiquants, Marie et Joseph. Ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire pour la Pâque, tout comme le récit d'avant, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire pour le premier-né à présenter au temple. Et vous voyez, ils se retrouvent en ayant perdu celui qu'ils pensaient être avec eux. Et je me dis, là, il y a comme une métaphore du bon croyant, vous voyez, du vrai croyant qui suit son chemin habituel religieux.
Avec une tranquille assurance.
Ouais.
Hein? Et puis soudainement...
Il fait l'expérience de l'absence de Dieu. Il croyait que Dieu était sur ce chemin-là depuis toujours et qu'il le sera comme toujours. Et voilà un Dieu déroutant qui surprend profondément. Quand on se fait une idée de lui trop arrêtée, Dieu peut nous surprendre parfois. Bon, cette métaphore-là que j'applique, cette lecture, disons, que je fais de la trajectoire des parents, c'est une réflexion qui a été développée par un de mes collègues dominicains qui s'appelle Ghislain Paris. Et ça peut paraître forcé, mais si on fait des liens, par exemple, avec le chemin des disciples d'Emmaüs, parce que c'est quand même intéressant, cette route qui part de Jérusalem et qui y retourne au début de l'Évangile, et cette même route qui part de Jérusalem et qui y retourne à la fin de l'Évangile, il y a des liens à faire, là. Et on voit bien que les disciples d'Emmaüs vivent quelque chose d'un petit peu semblable aux parents. Eux, ils sont certains qu'ils ont perdu Jésus au départ, et ils ont une idée tellement arrêtée sur lui qu'ils ne le reconnaissent pas alors qu'il est avec eux sur la route. Hein. Et finalement, ils vont le retrouver, mais en consentant à avoir perdu un certain Jésus, je dirais. C'est un peu comme les parents. Ils ne retrouveront pas le Jésus d'avant non plus.
Intéressant.
Les parents vont devoir renoncer à leur enfant Jésus, d'une certaine manière, pour retrouver un autre Jésus. Il y a de très nombreux liens qu'on pourrait faire. On ne pourra pas vraiment les développer, mais j'en signale quelques-uns. Des liens, donc, entre ce récit de Jésus au temple à 12 ans et le récit des disciples d'Emmaüs. Je les signale parce que Luc nous dit bien que comprendre, c'est faire des liens. Et je pense qu'il le dit pour les lecteurs qui, pour comprendre, doivent faire des liens entre le début de son évangile qui annonce Jésus, fils de Dieu.
Et les disciples d'Emmaüs qui sont situés à la fin de son évangile.
À la fin et donc après Pâques.
Après Pâques.
Vous voyez, après la Pâque juive et après la résurrection finalement. Alors, c'est comme, il me semble, pas un hasard. Bon, je suis pas la seule à faire ces liens-là. D'ailleurs, les commentateurs les font. Signaler que le premier acte autonome de Jésus se passe à Jérusalem. Ben, la prochaine fois que Jésus va aller à Jérusalem dans cet évangile-là, ça va être pour la Passion. Et il y aura 9 chapitres de cheminement. Alors, Dieu sait que la route, c'est un thème important chez Luc. Il vient cette fois-ci à Jérusalem pour la Pâque avec ses parents. C'est sa première Pâque. La prochaine Pâque qu'il va vivre à Jérusalem, donc c'est la scène et ce sera éventuellement donc la mort. Cette première parole, on l'a dit tout à l'heure, qui le situe par rapport au Père, comme sa dernière parole à la croix.
Ensuite, il y a les 3 jours. Hein?
Oui, les parents le trouvent après 3 jours.
3 jours.
Tout comme le tombeau est trouvé vide le 3e jour aussi. Et les disciples d'Emmaüs vont le dire. Voilà 3 jours que cela est arrivé. Hein? Mais lui... Et bon, ils sont stupéfaits. L'auditoire est stupéfait par Jésus. À 12 ans, je rappelle que c'est le même verbe quand les disciples d'Emmaüs rapportent la parole des femmes et ils ont été eux-mêmes stupéfaits. Les parents sont angoissés. Jésus demande aux 2 disciples d'Emmaüs « Pourquoi êtes-vous troublés? » La question que Jésus pose à ses parents « Pourquoi me cherchiez-vous? » textuellement, c'est ça, même si le lectionnaire n'a pas traduit comme ça. Ça paraphrase la question que l'ange pose au tombeau vide. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Cette question, Luc seulement la présente au récit du tombeau vide. Et finalement, Marie, qui garde toutes ces choses dans son cœur à la fin de notre récit, bon, les gens se rappellent probablement comment le thème du cœur est important dans le récit des disciples d'Emmaüs. Hein, Jésus leur dit « Vous êtes des cœurs lents à croire ». Et ensuite, eux vont dire « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait ?»
Donc, le cœur, lieu de la compréhension
et de la décision.
Là.
Oui, dans l'anthropologie juive, il faut s'en rappeler, c'est pas le siège des émotions, le cœur, mais le siège de la volonté, de la compréhension, de la décision. Alors, voyez donc, c'est plein de liens là qu'on peut faire de notre récit du début vers le récit d'Emmaüs. Ça met en valeur, je pense, cet effet déconcertant, je dirais, du personnage de Jésus. Je pense que c'est ça que Luc veut montrer. Comment, si on se fait une idée trop précise sur lui, on passe à côté. On l'a perdu en chemin et on doit le retrouver. Et en même temps, il y a quelque chose de déconcertant dans le Dieu que Jésus révèle aussi. Dans cet évangile-là, il nous met dans une certaine déroute. Alors, je pense que ça vaut la peine de continuer à chercher des liens comme ceux-là, parce que l'évangile de Luc est vraiment un évangile du cheminement, comme vous aurez l'occasion de le constater si vous le lisez du début à la fin.
C'est ça, et en ce sens, aujourd'hui, là, les parents de Jésus nous sont présentés comme des modèles de croyants.
Hein, je le croirais, oui.
Ils ne sont pas à l'abri d'une certaine déroute et qu'ils ne vont jamais retrouver le Jésus qu'ils ont perdu. Hein. C'est désormais un Jésus différent pour eux, malgré le retour à Nazareth.
Oui.
Puis même chose après Pâques, ils le reconnaissent, mais il disparaît. Hein. Ils ne peuvent retrouver le Jésus d'avant. Vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. À la technique Alain Primo, c'est Claude Julien qui vous parle et je vous souhaite une bonne et heureuse année.